Début de semaine, j'ai fait une retraite spirituelle pendant 3 jours au monastère des sœurs bénédictines de Vanves. C'est vraiment tout près. Et pendant ma retraite, j'ai entendu la montée de la tension internationale suite aux déclarations de Vladimir Poutine. Les sœurs bénédictines, chez qui j'étais reçue, lisent à voix haute des articles choisis dans les journaux tous les midis. Le calme du prieuré contrastait avec la violence de l'annonce. Un homme, pratiquement seul, décide de faire la guerre, ce qui va impacter des millions de personnes. Poutine veut garder l'Ukraine dans sa possession. Il refuse que ce pays qui a choisi librement de quitter l'Union soviétique en 1991 entre dans l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Il refuse de voir ce pays faire le choix d'une union avec d'autres pays que la Russie. Le choix d'une alliance, et j'ai été voir sur Internet, le premier fondement affirmé de cette alliance, c'est la résolution pacifique des différends et politiques. Après, bien sûr, il y a une solidarité militaire, mais d'abord, c'est la résolution pacifique. L'Europe a connu de nombreuses guerres sur son territoire, notamment entre la France et l'Allemagne, et à un moment de son histoire, en 1949, après tant de violences, le moment était venu de laisser la place à la parole, aux discussions, à une volonté de parler et d'être en paix. Cela a donné la naissance de l'Union européenne, une union de paix avant tout. Et nous avons, en tant que chrétiens et citoyens, la responsabilité d'y réfléchir, de penser notre monde d'aujourd'hui en prenant du recul. Nous sommes tellement soumis aux médias qui s'emparent des sujets brûlants et tiennent notre attention jour après jour, heure après heure. Il faut une grande volonté pour appuyer sur le bouton et dire stop. La guerre est à nos portes, et c'est important de le savoir. Mais elle fait écho à d'autres guerres sur la Terre, des guerres dont on entend beaucoup moins parler, des guerres sournoises, souterraines, locales. Et puis, il y en a d'autres qui concentrent des enjeux internationaux comme l'Ukraine, comme la Syrie. Et ça dure. Notre pays, la France, est en paix depuis 77 ans. Il ne faut pas se dire que c'est normal. Dans quelques semaines, nous devons faire des choix électoraux et au vu de l'abstention qui grandit dans nos sociétés, nous ne connaissons plus le prix d'avoir la chance de voter dans une démocratie. À nous, déguiser nos esprits pour réfléchir à notre positionnement de chrétien. Alors, il n'y a pas de recette miracle dans les évangiles, ne vous en faites pas, je ne vais pas commencer à parler politique, mais je pense que les textes bibliques que nous lisons, ainsi que la façon de vivre de Jésus dans son temps, sont là pour nous faire réfléchir. Est-il incongru de parler de générosité en ces temps troublés? Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Acquittez et vous serez acquitté. Donnez et on vous donnera. On a peut-être envie de dire à Jésus, c'est inaudible ton truc. Ce n'est pas applicable depuis la réalité de notre société. La vie est une lutte permanente contre l'avidité de tous, contre un individualisme qui fait tout centrer sur soi-même et qui fait considérer comme choquant d'être généreux. Lutter pour vivre implique de ne pas se laisser passer pour une personne faible. Alors, regardons le contexte historique dans lequel vivait Jésus, cet homme attesté historiquement. Il a vécu au temps des Romains, dans un pays occupé. Les Romains ont conquis le bassin méditerranéen environ 120 ans avant Jésus-Christ. Donc Jésus vit sous l'occupation ennemie. et doit répondre à de multiples questions. Faut-il payer son impôt à l'occupant? Faut-il condamner ceux qui travaillent pour eux, les collaborateurs, les collabos, comme on les appelait pendant la guerre? Dans la Bible, c'est les collecteurs d'impôts. Bah oui, parce qu'ils recueillaient les impôts pour l'ennemi, pour l'occupant. Matthieu, le disciple, était sans doute un collecteur d'impôts avant que Jésus ne l'appelle. Alors, quelle est l'attitude de Jésus? Va-t-il utiliser la force pour apporter la délivrance? Quand deux disciples discutent avec lui, sans le reconnaître après sa mort, ils lui disent « Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. » Nous avons réfléchi dimanche dernier à la question d'aimer ses ennemis. Nous sommes dans la continuité de cette réflexion. Malgré cette occupation romaine, malgré l'identité bafouée des habitants, Jésus se tient debout et parle. L'autorité qu'il dégage vient de bien plus loin qu'une puissance humaine autoproclamée. L'autorité qu'il porte lui vient de son Père, de Dieu, qui est à l'origine de toute vie, qui recueille le dernier souffle de toute vie terrestre et qui ouvre à une autre vie après la mort, à la vie éternelle promise à tous. Et Jésus vient nous dire, votre identité ne se résume pas à votre vie humaine, à votre identité humaine définie par vos origines, votre histoire, votre pays, votre famille. Vous êtes plus que ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Tous les êtres humains sur la terre sont des enfants de Dieu. Vous êtes chez vous en Dieu, accueillis par ce Dieu Père, révélé par Jésus. Dieu n'est pas un juge, mais il est un Père qui aime et qui nous veut. Des enfants et qu'il est pédagogue comme on est pédagogue avec des enfants. Oui, la libération que Jésus vient apporter est ancrée dans une verticalité qui nous fait en même temps accéder à notre profondeur parce que c'est là qu'il vient nous rejoindre et nous élève à Dieu. Et Jésus n'a pas besoin de montrer la puissance de Dieu par une puissance humaine. Quand on utilise la force dans l'agressivité, c'est qu'on n'a pas trouvé les mots pour rester humain dans le dialogue. Bien sûr, les mots peuvent faire beaucoup de mal et casser la relation, mais ils peuvent évidemment mettre en lien, faire des ponts entre les gens. Jésus va montrer la puissance de Dieu par un don de sa personne, le don d'une parole bonne, une parole de vie. Et ce don est une continuité et l'accomplissement du don de Dieu déjà présent dans l'Ancien Testament. Dans les textes bibliques, quand on parle de générosité et de compassion, en général, c'est pour parler de celle de Dieu. Le mot miséricorde qu'on a entendu tout à l'heure est souvent utilisé et signifie la même chose, mais c'est un mot un peu codé en Église. C'est difficile de se l'approprier dans le langage courant. Le don de Dieu et sa générosité sont bien plus grands que ce qu'on veut en voir. Nous pouvons ouvrir nos yeux sur ce don. On n'en a jamais fini. C'est un sujet de louange, que ce soit le don de la création, le don de notre propre vie, le don des cercles qui sont autour de nous, des cercles d'amitié, d'amour, d'affection. Tout cela nous fait vivre. Et c'est souvent en souterrain, dans l'intimité des cœurs, qu'on peut le reconnaître. Parce que ce que je reçois est donné de Dieu, mais pas souvent par l'autre, par le frère, la sœur, le prochain, celui ou celle qui s'approche de moi. Dans une relation, nous recevons quelque chose et nous donnons aussi de notre présence. Notre présence est un don à l'autre. Est-ce qu'on y a déjà pensé à ça? Et le confinement et le Covid m'en a fait vraiment prendre conscience, d'autant plus. Et puis, c'est parce que nous recevons de Dieu qu'à notre tour, nous pouvons donner. C'est parce que nous nous savons aimer que nous pouvons aussi donner un peu de cet amour et de cette lumière. Soyez généreux comme votre Père est généreux, nous dit Jésus. Et plus loin, c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Alors, quand j'ai entendu cette phrase, quand je l'ai revue, quand je l'ai retravaillée, j'ai eu envie de partager avec vous une petite histoire qui est écrite par un poète indien du début du XXe siècle. Ce poète s'appelle Tagore. Je ne dirais pas son prénom qui est plus compliqué. La petite histoire s'intitule « Le mendiant royal ». Donc je vous la lis. J'étais allé mendiant de porte en porte sur le chemin du village. Lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide, et j'admirais quel était ce roi de tous les rois. Mes espoirs exultèrent et je pensais, c'en est fini des mauvais jours. Et je me tenais prêt dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu me tendis la main droite et dis « Qu'as-tu à me donner ?» Ah, quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier ? J'étais confus et demeuré perplexe. Enfin de ma besace, je tirais lentement un tout petit grain de blé et je te le donnais. Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvais un tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurais amèrement et pensais, que n'ai-je le cœur à te donner mon tout. Être généreux sans savoir, sans rien attendre en retour. Passer au-delà de nos limites, de nos peurs, de nos fragilités, pour faire confiance simplement que nous ne serons pas abandonnés, que nous aurons toujours à manger, que nous serons toujours aimés. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre manteau. Être généreux avec Dieu et avec l'autre. Avec Dieu, car il nous donne sans compter. Avec l'autre, car nous recevrons bien plus que ce que nous attendons.